Albert Bataille, Les assassins de Paris, chapitre 2, Les assassins d'Auteuil. C'est aujourd'hui que s'engage devant la cour d'assises le procès des quatre misérables assassins du malheureux Bourdon, gardien d'une villa de la rue Poussin à Auteuil, en l'absence du propriétaire M. Chabot qui passe ses hivers à Nice. « Alors tôt, cellier, dit le manchot, mécréant et catelin, quatre rôdeurs vivant uniquement de rapines et de la prostitution de leur maîtresse, avaient choisi la nuit du 17 mars pour mettre à sac l'habitation de M. Chabot. Partis tous les quatre de je ne sais quelle bouche de la rue Lomartine, leur repère accoutumé, ils s'étaient fait conduire en voiture à Auteuil, porteurs de tout un attirail de voleurs et d'assassins. Couteaux, revolvers, lanternes sourdes, pinces monseigneur et fausses clés. Après avoir escaladé la grille de l'hôtel et s'être rapproché de la maison en rampant dans les massifs du jardin, les quatre malfaiteurs pénétrèrent dans l'habitation par la fenêtre du salon qu'ils avaient fracturée, et ils s'apprêtaient à éventrer les meubles quand l'un d'entre eux, qui était allé faire le guet dans le vestibule, revint précipitamment en disant tout bas « Il y a là un pente qui dort !»« C'est bien !» fit Châtelain. « Gute-le dans son lit !» Le malheureux Bourdon avait tout entendu. Tapis sous ses couvertures, il faisait mine de dormir profondément. « Où est l'argent ?» lui demanda Cellier en le secouant par le bras. Et sans attendre qu'il lui dît un mot, le misérable, appuyant son moignon droit sur la poitrine du jardinier, le larda du seul bras qui lui reste, à coups de poignard dans la gorge, pendant qu'Alorto essayait de l'étrangler avec un cache-nez, et que Mécran cherchait une place pour lui. « Faune, disait-il, un coup de pince, monseigneur, sur la gueule !» Quand Bourdon fut mort, la maison fut mise à sac. Les assassins partirent vers 4 heures du matin, chargés de lourds paquets contenant des pendules, des flambeaux, du linge, des vêtements, etc. Quelques minutes après, ils étaient arrêtés près du viaduc d'Auteuil par une ronde de police, au moment où ils se querellaient et où ils allaient en venir aux mains pour le partage du butin. Catelin parvint à s'échapper, après avoir tiré un coup de revolver à bout portant sur l'agent Laplante. Il fut arrêté le lendemain avec Mégrand et Cellier sur les indications d'Alorto qui, restait aux mains des agents, avait fait des aveux complets. La confrontation de ces quatre gredins, essayant chacun de sauver sa tête, ne peut manquer d'être assez dramatique. Le crime a été commis avec une cruauté impitoyable et une lâcheté sans nom. Il faut s'attendre à 2 ou 3 condamnations à mort. Certains détails romanesques ont d'ailleurs disparu du procès. C'est ainsi qu'il n'est pas vrai que les 4 assassins aient allumé des bougies autour du cadavre et dansé je ne sais quelle ronde macabre, les pieds dans le sang de leurs victimes. L'affaire n'est déjà que trop effroyable sans cette mise en scène de l'assassinat. Quel ignoble monde! Quelle figure sinistre de lâches gredins! Et quand on pense qu'ils sont à Paris, des centaines, des milliers, grouillant dans les bas-fonds, cachés sous de faux noms, dans des garnis sordides, vivant des filles et des receleurs, affiliés à des bandes avec le vol pour ordinaire et le meurtre pour extra, on se demande à quoi servent les juges, la police, les brigades de la sûreté et surtout cette loi sur les récidivistes, si salutaire dans son principe, si émasculée par la nonchalance des bureaux et par le sot attendrissement des humanitaires. Voici Alorto, une figure blême de ruffian italien, le type du monsieur correct, au linge blanc, au malarche, ciré, qui vous aborde à la porte des hôtels de Naples avec des sourires engageants, des « signor », une sorella. Voici Mécran, un grand garçon blafard au profil de Pierrot, si pâli par les orgies précoces qu'il semble caraffiné comme un clown. Un fils de braves gens, celui-là. L'unique enfant d'artisan, presque riche, qui en dépensait pour son instruction. Il a fui le toit paternel dès sa 15e année pour exploiter les drôlesses et jouer aux courses en quête d'un coup à faire qui lui rapporta, comme il l'a dit, quelques billets de 1 000 francs pour lui permettre de s'établir bookmaker pendant l'exposition. Et le dernier, Catelin, le plus répugnant de tous, avec ses cheveux pommadés, sa raie soigneusement faite, sa cravate de grenadine rose, son regard alangui, ses chairs molles et ce déhanchement presque féminin qui révèle le honteux mêlier dont il a vécu. Ils sont partis, tous quatre, une nuit de mars, pour piller cet hôtel d'Auteuil, pour assassiner s'il le fallait. Et ils ont tué lâchement, sans pitié, le pauvre diable de garçon jardinier, à moitié mort de peur, qui tremblait sous ses couvertures. Les voici devant le jury, balbutiant des justifications imbéciles, se renvoyant la responsabilité de l'un à l'autre, tremblant devant le couteau, comme si le couteau de M. Deblaire ne devait pas en bonne justice les faucher les uns et les autres. Lequel choisir, juré de la scène, dans ce quatuor d'assassins, pour lui faire grâce? À Lotto, qui a étranglé le malheureux Bourdon et qui l'a présenté, la gorge tendue, au poignard de Cellier. Cellier, qui l'a égorgé. Mécran, qui a éclairé cette scène effroyable, avec sa lanterne sourde, cherchant la place pour lui foutre un coup de jack, pince Monseigneur, sur la gueule. Catelin, qui a monté l'expédition et qui, arrêté après le crime, tirait à bout portant 2 coups de revolver sur les agents. Lequel? Et n'est-ce pas l'heure de frapper par un quadruple et impitoyable exemple cette armée du crime qui déborde sur nous, grossit les vauriens de tous les pays, et recrutant ses soldats parmi les adolescents, bientôt des enfants, comme si la limite d'âge s'abaissait d'année en année. Quelques lignes maintenant sur l'audience. Je l'ai résumé d'avance. Alors, Tho est interrogé le premier. Monsieur le Président Case. Vous êtes italien. Vous avez subi plusieurs condamnations. Vous êtes expulsé de France. Mais vous vous cachez à Paris sous de faux noms. Vous êtes si violent qu'on vous redoute même dans ce monde que vous fréquentez. Vous venez répondre aujourd'hui du pillage de l'hôtel de M. Chabot, propriétaire à Auteuil, et de l'assassinat du jardinier Bourdon, qui gardait l'habitation pendant l'absence de son maître en villégiature à Nice. Quel est celui d'entre vous qui a conçu l'idée de vol?
C'est Châtelain qui m'a parlé le premier de cette affaire. Mécréant était avec lui. Tous deux étaient allés déjà sur les lieux pour se rendre compte des facilités d'exécution. J'ai accepté de faire le coup avec eux. Je croyais la maison déserte. Si j'avais su qu'elle était gardée, je les aurais pas accompagnés. Nous ne voulions pas tuer.
Mais si vous ne vouliez pas tuer, pourquoi vous êtes-vous adjoint Cellier en disant « Il faut être 4 ». Pourquoi étiez-vous armé de revolvers et de couteaux?
C'est Cellier qui a acheté un revolver.
Vous emportiez encore des trousseaux de fausses clés, des ciseaux à froid, une pince Monseigneur, une lanterne sourde. Et le 19 mars, vers minuit, vous êtes retrouvés tous 4 rue Lamartine. Là, vous vous êtes fait conduire à Auteuil, en voiture. Vous avez escaladé la grille de l'hôtel et après vous êtes assuré que le pavillon du concierge était inhabité, vous êtes approché de la maison. Et toutes les portes étant solidement fermées, vous avez pris Châtelain sur vos épaules et il a commencé à fracturer les volets d'une fenêtre de l'entresol. Les volets enfoncés, les vitres de la fenêtre brisées, Châtelain fit jouer l'espagnolette et hissa les 3 complices après lui dans l'intérieur. Vous aviez commencé à forcer les placards quand Mécréant, qui faisait le guet, revint vous dire qu'un pente était couché dans le vestibule.
C'était le malheureux jardinier Bourdon. Vous êtes tous approchés du lit. Le pauvre garçon, qui faisait mine de dormir, se cachait immobile sous les couvertures. Mécran, qui était porteur de la lanterne sourde, lui frappa plusieurs fois sur les pieds. Quant à vous, vous vous teniez au chevet du lit en répétant « Allons, lève-toi, il nous faut de l'argent. » Que disait Cellier ? Il pensait qu'il devait y avoir en effet de l'argent dans la maison, puisqu'on avait mis un gardien. Et dès lors, la vie de cet homme n'était plus rien pour vous. Bourdon était un brave garçon qui nourrissait sa mère et qui avait accepté de garder pendant l'hiver cette maison déserte pour économiser un loyer. Vous avez délibéré un instant sur sa vie et vous l'avez condamné. Mais pour moi, je voulais pas lui faire de mal. Comment ? Vous avez bondi sur ce malheureux. Vous avez pris le cachet de Cellier pour lui entourer la gorge. Et vous l'avez serré si fort, dit le docteur Laugier, qu'il serait mort étranglé si Cellier ne l'avait poignardé auparavant. Quant à Cellier, il lui meurtrissait la poitrine de son moignon, tandis qu'il le frappait à coups de couteau, cattelant de son seul bras valide. Je disais cependant à Cellier de ne pas lui faire de mal, rumeur. Mais le malheureux Bourdon a reçu 3 blessures mortelles, à la gorge, au ventre et au cœur. Cellier prétend que c'est vous qui lui avez donné le coup de grâce, le coup de couteau au cœur. Vous avez tué cet infortuné à petit feu. Il a souffert le martyre. La justice humaine est plus douce pour les assassins. Elle les supprime d'un coup. C'est Cellier qui a voulu en finir tout de suite et qui l'a seul frappé. Je voulais que le baïonner, moi, le faire lever, le forcer à nous conduire où était l'argent. Ce n'était pas la grâce pour lui, ce n'était qu'un répit. Sa mort était d'autant plus certaine. Si vous l'avez tué quand il se cachait sous ses draps, qu'auriez-vous fait ? Après l'avoir forcé de vous servir de guide, alors qu'il eût pu vous reconnaître et vous dénoncer à la justice. Vous ne voulez pas lui faire de mal. Rumeur violente. C'est Cellier qui a voulu faire vite. Mais Cellier était comme accroupi sur lui. Il le rémissait avec son moignon. Oh, l'homme était déjà à moitié mort de peur. Seulement, comme il gigotait, Cellier a dit, il faut en finir. Mécréant voulait l'assommer d'un coup de jaque, mais Cellier lui a enfoncé son couteau dans la poitrine. Et vous, vous lui seriez, lui serriez le cou avec votre cachelet. Oh, il pouvait bien respirer encore. Vous l'avez même attaché au barreau de son lit avec le cachelet afin qu'il ne puisse défendre. Entre les coups de couteau, avez-vous dit, il gigotait encore. Enfin, il n'a plus remué, et vous avez dit à Catelin, « Maintenant, tu peux ouvrir les meubles, il ne parlera plus. » Et vous avez ouvert une fenêtre pour lui donner de l'air. Très rassuré, en effet, vous avez passé plusieurs heures à enfoncer les armoires, tout à fait joyeux, vous faisant même des niches et vous cachant les uns ou les autres dans les coins pour simuler l'arrivée d'un second gardien. Si bien que Cellier a dû vous menacé d'un mauvais coup pour vous rappeler au sérieux. Il y avait dans une armoire 10 000 francs en or cachés sous une pile de draps. Vous ne les avez pas trouvés. Catelin a fait imiter les draps sans découvrir l'argent. Et devant monsieur le juge d'instruction, Guillot, il s'en montrait inconsolable. Vous avez été réduit à faire des ballots de vêtements, de pendules, de curiosités et de bibelots. Et c'est ce qui vous a perdu. Une ronde d'argent vous a aperçu quand vous passiez tous quatre, chargés de paquets près du viaduc d'Auteuil. Et c'est ainsi que vous vous êtes laissé prendre, comme des novices. Rire. Les autres interrogatoires ne sont que la paraphrase de celui-ci, avec des contradictions de détails sur la scène de l'assassinat. Cellier est interrogé le second. Monsieur le Président, Vous n'êtes pas seulement un récidiviste des plus dangereux. Vous êtes chef de bande. Vous avez même mis à prix la tête du commissaire de police d'Aubervilliers. Alors, Thau possédait également une certaine notoriété dans le monde des voleurs. D'instinct, vous vous détestiez, vous étiez rivaux. Mais vous brûliez de vous connaître, et dès la première entrevue, vous vous êtes mutuellement conquis. Depuis lors, ça a été entre vous, à la vie et à la mort. Alors, Thau vous a un certain jour tiré des mains des agents. C'est lié. Et moi, si je me suis accusé d'avoir frappé Bourdon, c'est pour le disculper. C'est pour tenir un serment. Mais il m'a chargé, je suis délié. Je suis venu dire la vérité tout entière. C'est lui seul qui a poignardé le jardinier. J'ai rien fait. Alors, Thau. Ah non, non, tu étais sur lui. Tu le tenais sous ton moignon. Moi, j'étais à la tête du lit pendant que Mécran, debout au pied, nous éclairait avec sa lanterne sourde. Et Catelin, il tremblait dans un coin. Mécran, c'est Cellier qui a frappé. Catelin, oui, c'est Cellier. Moi, mais je suis venu que pour voler. Alors pourquoi portiez-vous un revolver? Je passe sur l'interrogatoire de Mécran et de Galtelin. C'est à la santé où tous deux subissaient une peine correctionnelle qu'Alorto et Mécréant se sont connus. C'est en prison, dans la promiscuité fatale du préau, que tous deux ont médité en commun les bons coups à faire. Mécréant évaluait à 400 000 francs le bénéfice probable de l'affaire d'Auteuil. « Comment on donne seulement 2 000 ?» ajoutait-il. « Avec ça, je m'établis bookmaker. C'est un métier où on gagne à coup sûr. » Il a rité. Les témoins sont entendus. Les gardiens de la paix, Largelier, Delrieux, Séquignol, Laplante et Leclerc, qui ont engagé avec la bande des assassins d'Auteuil une véritable bataille, sont vivement félicités par le président des assises. Le gardien de la paix, Laplante, affirme que c'est bien Catelin qui lui a tiré à bout portant 2 coups de revolver. Les balles se sont perdues dans sa coupe papote. « Oh, vous n'avez pas de remerciements à me faire !» ajoute le brave gardien de la paix. « Vous avez eu de la chance que j'ai eu ma capote boutonnée. Mon revolver était chargé à 6 coups. Si j'avais pu le sentir, vous ne seriez pas ici. » Après la comparution inutile et cruelle de la mère du malheureux Bourdon, pauvre vieille ouvrière en bonnet à 3 pièces, recouvert d'un serre-tête noir, et quelques autres dépositions sans intérêt, l'audience est levée à 6 heures et renvoyée à demain, samedi, pour le réquisitoire de M. l'avocat général Saru, les plaidoiries de Maître Léon-Félix Décoré, Alpire Du, et pour le verdict. Le jury de la Seine a fait bonne justice des misérables assassins d'Auteuil, en prononçant une triple condamnation capitale. Il a tenu à rassurer la population parisienne, et les honnêtes gens doivent l'en remercier. Nous avons du reste peu de choses à dire dans cette seconde audience, tout entière occupée par les plaidoiries. Monsieur l'avocat général Saru a requis la peine de mort contre Alerto, Solier et Mécréant, également coupables de l'assassinat du malheureux jardinier Bourdon. Il ne s'est pas opposé à l'admission de circonstances atténuantes en faveur du quatrième accusé, Catelin, qui, s'il a été l'instigateur du vol et le principal auteur du pillage de l'hôtel de M. Chabot, n'a pas participé matériellement au meurtre du malheureux gardien de l'habitation. Maître Léon, Félix, Décoré, Alpi et Landru ont ensuite présenté la défense. Après 1 heure de délibération, le jury a rapporté un verdict conforme au réquisitoire du ministère public, impitoyable pour Cellier, Alorto et Mécréant, mitigé en ce qui concerne Catelin par une déclaration de circonstances atténuantes. Monsieur le Président Case demande aux accusés s'ils ont quelque chose à dire sur l'application de la peine. « J'ai pas voulu faire de mal à Bourdon, » répond à mi-voix Alorto, de sa voix grasseyante et traînante. « C'est pas moi qui donnais les coups de couteau. Je voulais le baïonner, voilà tout. C'est les innocents qui payent pour les coupables. Et vous, Cellier ?» demanda M. le Président Quinze. « M'en rapporte à la conscience du jury, » balbutie le misérable, uniquement pour dire quelque chose. Car le jury est dessaisi maintenant et le sort des condamnés est irrévocablement fixé. Catelin et Mécréant restent impassibles. La cour condamna Lorto, Cellier et Béran à la peine de mort. Catelin a 20 ans de travaux forcés. Cellier, d'un geste vague, dit adieu aux amis qui sont venus le voir juger au fond de la salle. Une sorte de rictus se dessine sur le visage d'Allorto. « Bon là là !» fait-il en s'adressant à Cellier. « S'en aller à 25 ans, c'est dur. Toi au moins, mon chaud, ils ne t'auront pas tout entier. » Puis se tournant vers le jeune Catelin, pour lequel il a toujours manifesté une préférence sur laquelle il est inutile d'insister, « Faut que je t'embrasse, » ajouta-t-il. Et il parvient en effet à lui donner la dernière accolade, avant que les gardes ne les aient séparés pour leur faire descendre l'escalier de la souricière. Alors, Tho et Cellier ont été exécutés place de la Roquette. Monsieur le Président de la République fait à Mécréant grâce de la vie.